Les lundis l'histoire, Michel Perrault, bonjour. Connaissez-vous Charlotte Delbault ? Oui, sans doute. Non, peut-être. Rien de surprenant, tant elle demeure en France une méconnue. Ce lundi de l'histoire lui est consacré. Charlotte Delbault est née en 1913. Elle aurait 100 ans cette année. Elle est morte en 1985. Ce centenaire est l'occasion de redécouvrir cette femme exceptionnelle par son expérience et par son œuvre. Charlotte Delbault a été résistante, déportée à Auschwitz, sur lequel elle a écrit très tôt. Écrivain, femme de théâtre, ex-assistante de Jouvet et elle-même auteure de théâtre, elle est un grand témoin de l'univers concentrationnaire, un équivalent de Primo Levi. Un grand témoin de la tragédie du XXe siècle. Pourtant, elle a été relativement oubliée, surtout en France, où on la connaît peu, pour des raisons qui restent à approfondir. Elle est bien davantage connue aux États-Unis, où elle est devenue objet de recherche. Plusieurs thèses lui ont été consacrées. La biographie que publient chez Fayard, Violaine Gély et Paul Gradvol, sous le titre « Charlotte Delbault », retrace son parcours, tandis que la plupart de ses textes reparaissent aux éditions de Minuit ou chez Fayard. Jean-Pierre Leroux, que je remercie d'être là, nous fera entendre cette voix singulière. Merci à vous, Violaine Gély et Paul Gradvol, d'avoir accepté l'invitation dès lundi de l'histoire. Vous êtes Violaine Gély, journaliste et historienne, et vous, Paul Gradvol, vous êtes historien et professeur à l'Université de Varsovie. Alors, ma première question, d'abord, c'est pourquoi et comment ce livre ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, à tous les deux, de travailler sur Charlotte Delbault ?
Et on en revient à la question que vous posiez en introduction, c'est-à-dire que moi j'ai découvert les textes de Delbault il y a 20 ans, quand Minuit les a réédités, au début des années 90-95. Et je suis tombée en amour, en admiration absolue pour cette écriture, cette œuvre, ce personnage. Et donc j'ai voulu en savoir plus et je n'ai rien trouvé. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. On ne savait pas qui était Charlotte Delbault. On savait à peu près qu'elle avait été l'assistante de Louis Jouvet. Elle avait un tout petit peu raconté la suite de sa vie, c'est-à-dire le retour d'Auschwitz où elle a travaillé avec Henri Lefebvre et tout. Mais tout ça, c'était très dispersé, très disséminé. Donc, en fait, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et donc, un jour, je suis tombée sur une phrase de Doris Lessing qui disait « Si vous aimez quelqu'un et que vous ne savez pas qui il est, vous avez qu'à écrire sa biographie. » Et je me suis dit « Banco !» Et donc, on a travaillé effectivement avec Paul Gradvol en association très étroite de journalistes et d'historiens. Et il y a deux ans et demi d'enquête pour essayer d'exhumer tout ce qu'on pouvait trouver sur Delbault ici et là.
C'est très bien, moi je vais faire juste une confidence. Charlotte Delbault, je connaissais le nom, et c'est un étudiant chinois qui faisait, il y a 20 ans maintenant, une thèse en France, qui m'avait demandé à travailler sur les écrits sur l'univers concentrationnaire, et on peut dire que ce garçon, qui est maintenant professeur à l'université de Nankin, c'est lui qui, à Paris 7, m'a fait découvrir Charlotte Delbault. Voilà. Et on voit, en effet, la résonance souvent plus grande à l'étranger qu'en France. Et vous, Paul Gradvol, votre chemin a été identique ? Vous vous êtes retrouvés tous les deux à travailler sur Charlotte Delbault ?
Le chemin a été différent puisque mon chemin est passé par celui de Violaine Gély. Et quand elle m'a fait le récit de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait lu, de ses impressions, moi, en tant qu'historien qui commençait ma trajectoire d'historien en travaillant sur les surintendantes, donc sur des femmes, et sur la difficulté qu'il y avait à leur donner leur place dans l'histoire sociale française, puisque ça a pris, comme vous le savez très bien, beaucoup de temps, eh bien, pour moi, Charlotte Delbault est très vite apparue, et c'est ça qui moi, m'a motivé dans quelque chose de très différent, comme une vraie énigme sur la société française.
C'est ça.
Et donc, nos approches se sont retrouvées, mais au départ, les préoccupations étaient assez différentes.
Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé les sources? Est-ce que vous avez trouvé des choses dans les archives publiques? Avez-vous trouvé les archives privées? Vous dites par ailleurs que certaines sources, les archives Jouvet, sont déposées à la Bibliothèque nationale. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu avec quoi vous avez travaillé? Ce chemin que vous avez fait, comment, à travers quelles sources?
Alors, nous avons commencé par les archives personnelles de Charlotte Delbault, qui était à l'époque chez son ayant droit, son amie Claudine Rira-Collet, qui avait gardé ça dans sa bibliothèque.
Et toujours là.
Alors, depuis la sortie de la biographie, elle en a fait don à la Bibliothèque nationale, à la BNF. Donc, aujourd'hui, elles sont accessibles à tout le monde. Mais à l'époque, donc, elles étaient, depuis la mort de Charlotte, dans la bibliothèque de Claudine Rira-Collet. Donc, on a commencé par travailler sur les archives personnelles, qui, en fait, dataient d'après 45, puisque quand Charlotte Delbault et son mari ont été arrêtés par la police française, tout a été saisi, dispersé, et il n'y a plus aucune archive d'avant l'arrestation.
On ne trouve rien dans des archives allemandes, par exemple, qui auraient été saisies par...
Parce que c'est la police française qui les a arrêtés.
Bien sûr, vous avez raison.
Donc on a trouvé effectivement ensuite des choses aux archives de la police. On a trouvé les dossiers de filature et d'arrestation de Charlotte Delbault et Georges Dudac, son mari. Et puis, c'était un peu comme une grosse pelote de laine, quoi. On tirait les fils au fur et à mesure. Il y avait des nœuds, on contournait. Des fois, on a dû couper. On associait les archives personnelles et les témoignages de gens ayant connu Charlotte Delbault et nous racontant sa vie. Et puis, effectivement, Paul, plus précisément, a travaillé sur des archives comme des archives en Suisse, en Russie, oui. Les archives du Parti communiste.
Vous avez donc trouvé des choses intéressantes dans ces archives.
Sur le mari de Charlotte Delbault, qui était un militant de l'Internationale communiste et du Parti communiste français, on a eu la chance, Georges Dudac, qui est vraiment un personnage qui mériterait qu'on creuse encore le sillon de sa biographie à lui. Grâce à une historienne suisse, Corinna Macher, qui elle travaillait beaucoup à Moscou, on a récupéré du Air Gaspi, pour ceux qui savent ce que c'est, un dossier plus complet que ce que les soviétiques et puis les russes avaient transmis sur lui, notamment avec une photo qui n'existait pas avant, au moins en France. On a réussi à glaner des informations à droite et à gauche, mais pour donner un exemple, les fameux dossiers de filature des brigades spéciales françaises sont des dossiers qui, on le voit bien, sont folliotés quelquefois deux ou trois fois pour certains documents qui ont été totalement caviardés progressivement par les membres des brigades spéciales, puis par des gens qui venaient pour le PC pour enlever un certain nombre de choses, puis par d'autres gens qui revenaient derrière. Et dès le départ, ces archives sont très difficilement utilisables puisque les policiers, volontairement, cachaient leurs sources ou faussaient la piste. Parce que policiers, sachant ce que c'est que des papiers, ont toujours peur qu'on les trouve. Donc, on a travaillé sur des documents, mais ce n'est pas parce qu'on a des documents qu'on a eu la présomption de croire qu'on avait accès à une pure et simple vérité. Dans ce genre de période, on a affaire à des gens qui, dès les années 30, sont habitués à la clandestinité.
Oui, oui, oui. Donc, les archives sont clandestines aussi. Ah bah, et quelquefois,
par exemple,
forcément,
quand on
et quelquefois perdu.
Perdu ou caché. Dans les archives du PCF, on a posé plusieurs fois la question, on nous a dit qu'il n'y avait rien. Alors, semble-t-il, on a appris après coup que peut-être au comité central, il était resté des archives qui n'avaient pas été déposées à Bobigny. Donc, on ne désespère pas de poursuivre l'œuvre, mais on a des périodes où les gens cachaient leur vie. Et non seulement les acteurs eux-mêmes, mais ceux qui étaient proches des acteurs de ces histoires. Oui. Et sur les archives militaires, par exemple, nous ne savons toujours pas où est passé Georges Dudac. On a retrouvé une partie des archives, mais on ne sait pas où il est passé entre la fin 39 et juin 40.
Des pas trous du tout. Qui correspondent à la clandestinité. La clandestinité réussit jusqu'au niveau des archives, si j'ose dire.
Bien sûr, non, mais bien entendu, là, c'est un trou.
Ça va de soi.
Lié à son service au sein de l'armée. C'est-à-dire l'armée elle-même a des archives qui, visiblement, ont de nombreux trous.
Et les témoignages, les personnes que vous avez pu retrouver, est-ce qu'il y a des personnes qui ont marqué, enfin, dans votre enquête?
Ah oui, beaucoup. Alors, il y a déjà toutes celles, il n'en reste pas beaucoup, mais les campagnes de camp de Charlotte, Qui sont aujourd'hui des très vieilles dames, mais qui pour certaines ont encore une énergie, vraiment un désir de vivre, un élan de vie incroyable. Donc c'était très, très important de rencontrer ces femmes-là. Et puis Charlotte, notamment sur la fin de sa vie, dès les années 70-75, elle qui n'avait pas eu d'enfant, a pris en charge l'éducation intellectuelle, la formation intellectuelle d'un certain nombre de jeunes gens qui donc aujourd'hui ont 40-50 ans et qui nous ont raconté leur Charlotte à eux, c'est-à-dire non pas la jeune femme résistante déportée, mais la femme plus âgée qui avait envie de laisser une trace, qui était déjà écrivaine, qui avait déjà publié. Et ça, c'était très, très attachant. Et vraiment, ils nous ont dessiné le personnage de Delbault. On sortait des archives et puis de l'héroïne pour rencontrer une femme avec ses ambivalences, son mauvais caractère parfois. Enfin, vraiment, on n'était pas dans l'héroïsation, on n'était pas du tout dans la sanctification. Et c'était, ça nous donnait de la chair. Ça
bien
nous
donnait, sûr.
Ça
bien
incarnait sûr. Parfaitement Charlotte Delbault.
Ce qu'il faut dire, et ce qui est essentiel, c'est que Charlotte Delbault elle-même a écrit très tôt. Vous montrez que dès le retour des camps, presque dès 45-46, enfin, elle commence à écrire, à crayonner, enfin, plus que crayonner, et ça ne sera publié que plus tard. Mais elle écrit très tôt. Et ceci dit, c'est l'occasion de faire remarquer que, contrairement à une idée reçue, beaucoup de déportés parmi ceux qui sont rentrés ont écrit et témoigné. Et ça, Annette Wiewiórka le dit très bien. Hein. Elle dit que dès 45, il y a des livres, 46-47, les grands témoignages comme celui de Robert Antelme, David Rousset, Primo Levi et Charlotte Delbault. Mais Charlotte Delbault ne sera publiée qu'un petit peu après.
Alors, partiellement, oui. Parce que dans Annabelle, une revue suisse, et dans quelques autres périodiques suisses, dès 1946, elle publie des textes qui font des pages entières quand même.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
Pas un livre,
oui.
Mais quand des même des articles. Et c'est déjà à la fois du témoignage et un peu au-delà du témoignage. Puisqu'il y a des textes qui sont presque complètement repris, comme dans la forme initiale, sauf quelques mises en forme, dans Aucun de nous ne reviendra.
Oui. Ce qu'il faut dire d'entrée, c'est que Charlotte Delbault est à la fois un témoin et un écrivain. Une écrivaine, si l'on veut, peu importe. Et elle attache beaucoup d'importance à la forme, hein, aux mots. On va le voir tout à l'heure en écoutant les textes que Jean-Pierre Leroux nous dira. Alors, suivons un peu son itinéraire beau, tragique. Donc, elle est d'origine italienne. Enfin, ses parents sont d'origine italienne. Ils sont des Italiens qui ont émigré en France à la fin du 19e. C'est un milieu très modeste, Paul Gradvol.
C'est un milieu ouvrier, mais du côté de son père, ouvrier qualifié. Ce sont des gens qui travaillent dans le fer, dans la ferronnerie. C'est des gens qui font des chantiers itinérants, puisqu'ils ont construit les grands ponts, le pont du Gard et autres. Pas le pont du Gard, mais
le
pont de Gavarnie.
Des routes et des ponts.
Voilà. Et donc, ce ne sont pas des sous-prolétaires. On a affaire à la classe ouvrière quand même déjà solidement qualifiée.
Ce que jadis on appelait l'aristocratie ouvrière, mais c'est un mot à répudier.
Et une petite tradition anarchisante, dirais-je, dans l'esprit. Oui. Une fierté particulière de son travail, de son engagement. Un sens de l'accueil donné par la France aussi. Très marqué, avec donc des exigences de la mère. Quand la guerre arrive, il faut résister aux Allemands.
Il faut payer de sa personne.
Oui.
Faut s'engager.
Tout à fait. Oui. Donc ça, c'est très très fort, mais des gens qui pensent par eux-mêmes.
Oui, c'est dans la tradition.
C'est très très marquant.
Du syndicaliste d'action directe, anarcho-syndicaliste, enfin un petit peu quoi.
Oui, c'est ce genre de tradition qu'on a connue en France et qui existait aussi un peu partiellement en Italie.
Oui, oui. Alors, est-ce qu'elle fait des études, Charlotte?
Alors,
on l'a dit ça.
Oui, on l'a beaucoup dit. Nous-mêmes, nous sommes partis d'ailleurs sur une piste qu'on nous avait donnée, qui était, elle a fait la philo à la Sorbonne après son bac. Et quand on se souvient de ce que pouvait être une fille d'ouvrier, même qualifiée en 1927, 28, 29, elle n'allait pas au bac. Donc on n'a pas vraiment trouvé les pièces, mais on pense qu'elle est allée en tout cas jusqu'au certificat, le brevet élémentaire, on disait à l'époque, c'était juste après le certificat d'études, et qu'ensuite elle a fait des études de sténodactylo.
C'était classique.
Voilà, puisqu'à 18 ans, elle est à Paris.
Pigier,
elle gagne
peut-être.
Sa vie, l'école Pigier, sans doute, parce que c'était une formation. Enfin, il y avait des écoles Pigier partout. Et donc, en 1929, elle est à Paris, elle gagne sa vie, elle est indépendante. Voilà, elle a 17 ans et c'est une jeune ouvrière. Elle a franchi un pas de plus que ses parents, mais elle n'a pas fait d'études, non.
Elle est très autodidacte, très cultivée, elle lit beaucoup, elle fréquente une université populaire.
Voilà.
Et un jour, elle fait la merveilleuse rencontre de Georges Dudac.
Pouvez-vous
nous raconter brièvement cela ?
Alors, elle est amenée sur les bancs de l'université ouvrière du PC par un de ses amis.
Le PC, c'est-à-dire le Parti communiste.
Le Parti communiste, un jeune homme qui l'a dragué, elle le raconte, boulevard Saint-Michel, à qui elle a résisté vaillamment. Mais ils sont devenus amis et c'était Henri Lefebvre. Et donc Henri Lefebvre l'a fait adhérer aux jeunesses communistes et l'emmène donc à l'université ouvrière. Et là, à l'université ouvrière, elle rencontre un jeune homme de son âge qui s'appelle Georges Dudac, qui lui est un militant farouche.
Assez stalinien.
Très stalinien, très dans la ligne. Il a essayé d'entrer au PC avant l'âge requis et il avait 13 ans. Et là, quand même, ses parents ont dit « tu vas attendre encore un peu ». Donc, c'est un militant et c'est un homme passionnant, un jeune homme passionnant, intelligent. Et voilà. Et un jour, il la raccompagne. Et ces deux-là vont vivre, on le pense, hein, puisqu'on n'a pas de témoignage de cet amour. Ils se marient en 1935. On n'a pas de témoignage vivant, mais on a les mots de Charlotte et son attachement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas refait sa vie, elle ne s'est pas remariée après la mort de Georges. Et on a ces mots qui nous disent cet amour-là.
Oui, oui, oui. Alors donc, ces deux jeunes gens se marient en 35 ou 36. Ils sont pris dans les événements qu'on n'a pas besoin de rappeler ici, le Front populaire et la guerre.
Et la guerre.
Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la guerre pour eux qui va montrer le basculement de leur vie, Violaine ou Paul, qu'est-ce qui se passe là ?
En fait, Charlotte est donc l'assistante de Louis Jouvet, on l'a dit.
Oui, c'est ça, elle est l'assistante,
l'assistante de Louis Jouvet dès 1937. Et donc, quand la guerre éclate, Jouvet part en tournée en Amérique latine et demande à Charlotte de l'accompagner. Elle hésite, elle ne veut pas. Bon, Georges est entré dans la lutte clandestine et Jouvet arrive à décider Charlotte et elle part avec lui. Puis au bout d'un moment, elle se rend compte, Jouvet lui dit « Non mais en fait, on ne va pas rentrer parce qu'on est plus utile à la résistance culturelle française en étant en Amérique latine. »
Et ça, c'est 41.
Mmh. Et ça, Charlotte ne veut pas l'entendre. Elle veut rejoindre ses camarades de combat, son mari, qui sont dans la clandestinité, qui courent les risques, Georges a rejoint le réseau Politzer, donc qui travaille dans les revues clandestines. Voilà, dans les revues clandestines. Donc elle rentre toute seule. Elle traverse l'Atlantique sur un cargo toute seule pour retrouver Georges. Et il rentre dans la clandestinité, tous les deux, Georges travaillant sur deux réseaux, sur le réseau Politzer qui s'occupe donc des revues clandestines intellectuelles du Parti communiste. Et il travaille aussi en association avec les écrivains français. Et il est l'agent de liaison de Louis Aragon. Et c'est lui qui, plusieurs fois, va chercher Aragon à Nice, lui fait franchir la ligne de démarcation. Aragon est triolé, Triolé racontera très joliment ses rencontres avec Dudac. Voilà, il est dans ces deux milieux-là et ils sont tous les deux enfermés dans un petit appartement clandestin rue de la Faisanderie.
Oui, et comment ont-ils été arrêtés ?
Le cadre d'une vaste opération lancée en début 1942, par les brigades spéciales dans leur branche anticommuniste. C'est Georges Dudac qui a été repéré. Elle n'avait pas été repérée. D'ailleurs, quand les policiers arrivent, ils sont un peu surpris de trouver Charlotte dans l'appartement. Dans leur appartement, au moment où ils sont arrêtés, il y a Pierre Villon, qui était quand même un grand personnage de la résistance, qui a juste à peine le temps de passer par la fenêtre de la salle de bain et de disparaître comme un bon cambrioleur en grimpant au mur et en redescendant. Ils ont été découverts par des filatures, mais de ce que j'ai vu dans les archives de la place Maubert, donc de la préfecture de police de Paris, moi, je ne sais pas quel est le point de départ. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui a trahi dans le réseau. Je ne sais pas s'il y a eu une autre cause au départ. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a eu un travail de filature extrêmement professionnel et développé, que ça a duré des semaines et des semaines, et qu'on a fait tomber des dizaines de militants d'un coup, quand le 2 mars, on vient les chercher, ce ne sont pas les seuls.
Alors, ils sont tous les deux emmenés à plusieurs prisons, je crois. Romainville, la Santé...
La Santé, dans un premier temps.
Bah, d'abord, la préfecture, où les Français s'en occupent. Ensuite, à la Santé, ce sont les Allemands qui les récupèrent. Et ensuite, après l'exécution de Georges, elle va partir à Romainville.
C'est ça. Avant l'exécution de Georges, ils sont ensemble à la Santé.
Oui.
Et on vient la chercher... Un matin,
le 23 mai au matin, oui.
Pour lui, qu'elle dise adieu à Georges. Hein. Elle raconte ça dans ses mémoires, qu'elle ne reverra pas, car il va être fusillé. Bon. Est-ce que c'est au Mont-Valérien qu'il a été fusillé avec plusieurs autres?
Oui, ils étaient sept.
Donc peut-être Politzer à ce moment-là,
oui,
non
oui.
En même temps.
Et on les retrouve ensemble aujourd'hui au Père-Lachaise.
Donc une histoire d'amour tragique, hein, et dont elle a elle-même témoigné, car elle a beaucoup parlé du Dac, Georges Dudac après, et Jean-Pierre Leroux va nous lire deux textes, l'un qui évoque la rencontre avec Georges Dudac, et l'autre qui évoque l'adieu, le revoir à Georges Dudac. Jean-Pierre Leroux.
Je lui disais, mon jeune arbre, il était beau comme un pin. La première fois que je le vis, sa peau était si douce. La première fois que je l'étreignis, et toutes les autres fois, si douce, que d'y penser aujourd'hui me fait comme lorsqu'on ne sent plus sa bouche. Je lui disais, mon jeune arbre, lisse et droit, quand je le serrais contre moi, je pensais au vent, à un bouleau ou à un frêne. Quand il me serrait dans ses bras, je ne pensais plus à rien. Je ne l'ai pas donné, et la mort l'a arraché de moi. Et cette cause, plus forte que mon amour, pour cette cause, il fallait mourir. Pour mon amour, il fallait vivre. Vous croyez que c'est facile, peut-être, de n'être pas femme et jalouse ? D'une autre, on peut la tuer. D'une idée, il faut mourir aussi. Je n'ai pas pu mourir avec lui et je n'en suis pas morte.
Voilà deux très beaux textes qui rappellent son amour avec Georges Dudac et le drame de leur séparation. Alors donc, comme vous l'avez dit, elle a fait plusieurs prisons, dont Romainville. À Romainville, elle rencontre Marie-Claude Vaillant-Couturier, elle rencontre Daniel Casanova et d'autres, et c'est le 24 janvier 1943 que part le fameux convoi du 24 janvier. Hein. Alors... Comment ça se passe,
alors,
Violaine Gély?
Ce convoi est célèbre dans l'histoire de la triste histoire de la déportation parce que c'est le seul convoi de femmes résistantes françaises qui soit allé à Auschwitz. De façon très générale, les prisonnières politiques étaient envoyées à Ravensbrück. Et pour une raison sur laquelle les historiens se cassent le nez depuis, on ne comprend pas pourquoi ce convoi-là est arrivé à Auschwitz. Mais de fait, ce convoi qui comptait 230 femmes, avec des résistantes, beaucoup de résistantes communistes, avec les figures de Marie-Claude Vaillant-Couturier, de Daniel Casanova, de Marie-Elisa Nordmann, de Maï Politzer. Les communistes faisaient les deux tiers du convoi, mais il y avait aussi des résistantes gaullistes et des résistantes des réseaux catholiques qui étaient avec elles. Donc elles étaient 230. Elles sont arrivées le 27 janvier 1943 à Auschwitz et 49 d'entre elles ont survécu, sont revenues en France en 1945. Et c'est l'un des taux de survie le plus fort qui soit pour un convoi, chose sur lesquelles Charlotte est revenue après en expliquant que c'est la sororité, ce qu'elle appelle la sororité, qui a permis aux 49 qui sont rentrés de rentrer.
Oui, c'est très présent dans ses écrits, le rôle de la solidarité, de la communication, pour arriver à survivre. Enfin, elle l'explique tout à fait ainsi. Le train qui les emmenait, elle en a laissé témoignage, Jean-Pierre Leroux, on vous écoute.
Le train roulait depuis 2 jours et 2 nuits vers l'est, toujours plus vers l'est. Dans l'obscurité silencieuse, le bruit des essieux s'était incorporé au silence et ce silence était oppressant, une voix me surprit, celle qui n'était pas encore mes meilleures amies et qui allait le devenir, et pour si peu de temps, dormait à mes côtés, ou peut-être faisait-elle, comme moi, le bilan de leur richesse et de leurs regrets. Nous étions enfermés encore dans un passé tout récent qui tout à coup devenait inutile. Il fallait une grande lucidité pour admettre qu'il était inutile tant il était proche. Mais voilà qu'on pouvait le retourner en tous sens, comme un radeau échoué. Voilà comme on pouvait dire. Ici s'arrête mon passé. Ici, à cette obscurité du wagon roulant vers l'est. Ici s'arrête mon avenir, en même temps que mon passé. Qui pouvait espérer ? Qui espérait ? Aucune, j'en suis sûr. Et faire semblant n'était que crânerie. Et moi, qui avais abandonné Georges à la mort un matin dans la prison, moi, qui avais dit adieu à Georges et à toute notre vie ensemble, dit adieu, cela voulait dire renoncer à tout notre passé ensemble. Je me sentais dans ce voyage encore plus solitaire et dépourvu, encore plus vulnérable, parce que me manquait la certitude d'être aimé que j'avais eue jusqu'alors, au-delà de cette distance toujours grandissante entre moi et mon amour, puisque cet amour avait été anéanti, assassiné.
Ce qui est magnifique dans ce texte, c'est qu'elle témoigne sur le collectif, le train, et en même temps, elle. Hein, et c'est ça qui est particulier, je trouve, à Charlotte Delbault, c'est qu'elle a une voix personnelle dans l'histoire collective, sans jamais oublier aucun des deux bords de l'expérience. Donc, si l'on peut dire, le train à Auschwitz... Paul Crawford, quelles vont être les différentes étapes chronologiques de son expérience concentrationnaire ?
Les premiers mois, les premières semaines sont terrifiantes. C'est là où l'essentiel de ses compagnes vont mourir. Elle sera à Auschwitz au moment du célèbre appel meurtrier où on va les forcer à courir après des heures de station debout depuis le milieu de la nuit. Elle va donc subir ça et survivre par miracle. Et elle aura bien conscience qu'il s'agit d'un miracle. Et puis, coup de chance, si je puis dire, à l'été, elle sera enlevée du camp principal de Birkenau 2 et elle sera déplacée à Raïskau. Raïskau, c'est une petite station de production d'un pissenlit censé devoir aboutir par transformation à du caoutchouc auquel les Allemands n'avaient plus accès à cause de la guerre et du fait que les Anglais et les Américains maîtrisaient la mer un peu mieux qu'eux.
Un des fameux ersatz.
Simplement, l'avantage, c'est qu'il s'agissait de travailler dans un milieu où on devait être propre. Ils ont pu enfin se laver. Où il fallait être physiquement autre chose qu'une loque humaine, parce que c'était pas intéressant d'avoir cette espèce de rotation permanente qu'il y avait dans le camp principal. Et elle a pu, comme ça, en restant à Raïskau jusqu'à la fin 42, tout début 43, survivre dans un milieu où il y avait un taux de mortalité qui était beaucoup moins important. Et ensuite, miracle, on la prend, elle, avec 6 autres, je crois. Les transporte dans des conditions que Violaine peut raconter parce que c'est proprement hallucinant à Ravensbrück.
Mais c'est un peu comme le convoi
Violaine Gély
dont on ne comprend pas ce qui a pu se passer pour qu'elle soit à Auschwitz. Là, on les transporte d'Auschwitz à Ravensbrück dans un wagon de 3e classe d'un train normal. Elles arrivent à Berlin, elles prennent le métro. pour aller à une autre gare.
À Uri.
Elles comprennent pas. Oui. Elles sympathisent avec les deux gardes qui sont avec elles. Elles échangent des cigarettes, elles plaisantent. Charlotte raconte même qu'au départ d'Auschwitz, donc on est fin janvier 44, donc il fait encore très froid, il y a de la neige, etc. L'une d'entre elles avait des chaussures un peu grandes et elle essaie de remettre ses lacets. Elle n'y arrive pas, elle a les doigts gourds, elle a peur, elle n'y arrive pas. Et le SS, Taube, il s'appelait, Ernst Taube, s'agenouille à ses pieds et lui lasse sa chaussure. Et Charlotte dit, on l'a vu jeter des chiens sur des déportés, on l'a vu les achever à coups de trique, et il s'agenouille et il lui noue ses lacets. Et pendant ce voyage qu'elle raconte dans Aucun de nous ne reviendra, il y a ce côté surréaliste. Elle traverse l'Allemagne dans un train, on leur rend leurs valises, elles ont leurs vêtements.
Quasi normal, et si on peut
quasi
dire.
Normal. Oui. Et elles ne comprennent pas. Et quand elles arrivent à Ravensbrück, la parenthèse se referme. Elles se retrouvent déportées dans un camp de concentration. Mais elles ont eu cette parenthèse-là. Elles ont retrouvé une vie normale.
Oui. C'était tout à fait extraordinaire.
On ne comprend pas. Oui.
Alors, son œuvre raconte, hein, et porte témoignage sur, j'allais dire, le quotidien, on ne sait pas toujours quel mot on peut employer pour parler d'Auschwitz, mais elle raconte le quotidien d'Auschwitz. Tout, évidemment, la faim, le froid. Dans qui rapportera ces paroles, il y a un texte surprenant sur le froid. Prendre froid, quelle expression. Nous sommes dans le froid, nous sommes du froid, des blocs de froid. Pourtant, dans le wagon, il faisait froid, le pain a gelé. Nous n'avons pas pu manger ici. Des lames, des aiguilles de froid vous percent, des mâchoires de froid vous broient. Enfin, elle parle du froid de manière tout à fait extraordinaire. Et puis, naturellement, la discipline, la maladie, le corps, la diarrhée. Hein, la diarrhée qui ravage les corps, qui est humiliante en même temps, qui est vraiment ravageuse. La violence, les coups, la mort quotidienne. Elle dit, par exemple, à propos d'Angèle, elle était à côté d'elle, elle est morte pendant la nuit, le long de moi, sans que j'entende rien. Au matin, quelqu'un est mort à côté, puis la vie continue. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Et ce qu'elle dit, en effet, ce que vous avez tout à fait souligné ça au début, c'est que pour tenir le coup, il faut la solidarité, et puis aussi, il faut penser qu'on va sortir. Si tu cesses de croire au retour, tu es perdu. Hein ? Si on cesse de croire, on est perdu. Voilà, moi, tout ce qui m'a beaucoup frappé dans son expérience d'Auschwitz, mais j'aimerais vous entendre l'un et l'autre là-dessus. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, Paul et Violaine ?
Moi, la première chose qui m'a frappé quand je l'ai lu et depuis que je travaille sur Charlotte, c'est cette extraordinaire solidarité des femmes. Et non pas, les hommes aussi ont été solidaires, la question n'est pas là, mais il y a une particularité, une forme différente de solidarité, et cette solidarité-là passe par le corps. Et je trouve que dans l'œuvre de Charlotte, on comprend ça. Par exemple, tout simplement, quand elles ont très très froid à la pelle, elles sont donc par rangées de cinq, elles se serrent les unes contre les autres dès que les SS sont passés, et elles mettent leurs mains sous les bras de celles qui sont devant pour se réchauffer. Il fait moins 30 et on est dans les plaines de Pologne, mais pour avoir moins froid. Et tous les quarts d'heure, elles tournent de façon à ce que les premières qui se retrouvent à l'arrière, et que il y a une inventivité dans cet amour qu'elles ont les unes pour les autres. Elles se sacrifient. Quand Charlotte est atteinte du typhus, elle ne peut plus boire et elle est en train de mourir de soif. Et il n'y a pas d'eau. Et ses camarades donnent leur ration d'une journée de nourriture pour qu'elle puisse avoir de l'eau à boire. Moi, c'est ce qui m'émeut le plus dans ces récits du camp.
Oui, oui. Et vous, Paul, qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé ?
Ce qui est frappant, c'est la difficulté qu'on a à parler de témoignage. Parce que je ne suis pas persuadé que ce soit un témoignage. Quand on lit Charlotte Delbault, on ne sait pas quand ça se passe, on ne sait pas exactement où. Ce qu'on sait, c'est ce qui a été vécu. Et ce qui a été vécu et qui est traduit sous une forme extrêmement concentrée. C'est-à-dire que quand on reprend des passages que vous avez lus sur le froid, c'est pas une fois le froid, c'est le froid absolu qu'elle traduit. C'est 150 appels, pas un seul. Donc on n'est plus dans le registre du témoignage type enregistrement, caméra, voilà, je vais vous faire le film de l'histoire. Non, on est dans quelque chose qui subsume, de concentrer, et d'ailleurs dans l'écriture, ça, c'est ça qui ressort. Il y a une force presque explosive de ces descriptions. Et la deuxième chose qui, moi, me frappe, et ça rejoint ce que disait Violaine, et Charlotte Delbault elle-même le dit clairement, elle dit, voilà, ce que j'ai retiré de tout ça, c'est que le corps a une mémoire qui reste alors que l'esprit ne peut pas restituer. Mais certaines douleurs, certaines sensations, elles restent. Et ça, c'est le cœur de la vérité. Et c'est très rare, parce que d'habitude, dans la littérature de témoignage, il y a une tentative pour essayer de restituer des événements, expliquer une logique. Dans Charlotte Delbault, il n'y a pas d'explication de la logique concentrationnaire. Il n'y a pas une trame chronologique, ni même une description sociale ou autre du camp. Pourtant, sa sensibilité propre, la façon dont elle écrit, apporte un éclairage tout à fait unique sur ce qui s'y est passé.
Oui, c'est ça son apport majeur. Et c'est le rôle de l'écriture qu'elle donne à l'écriture, qui fait d'elle une voix. Jean-Pierre Leroux, on va vous entendre justement sur Auschwitz, ce point sur la carte, et puis aussi la litanie des mortes.
Ce point sur la carte, cette tache noire au centre de l'Europe, cette tache rouge, cette tache de feu, cette tache de suie, cette tache de sang, cette tache de cendre, pour des millions, un lieu sans nom. De tous les pays d'Europe, de tous les points de l'horizon, les trains convergeaient vers l'innommé, chargés de millions d'êtres, qui étaient versés là, sans savoir où c'était, versés avec leur vie, avec leurs souvenirs, avec leurs petits mots, leur grand étonnement, avec leurs regards qui interrogeaient et qui n'y a vu que du feu, qui ont brûlé sans savoir où ils étaient. Aujourd'hui, on sait. Depuis quelques années, on sait. On sait que ce point sur la carte, c'est Auschwitz. On sait cela. Et pour le reste, on croit savoir. Yvonne Picard est morte, qui avait de si jolis seins. Yvonne Blech est morte, qui avait les yeux en amande, et des mains, qui disaient si bien. Mounette est morte, qui avait un si joli teint, une bouche toute gourmande, et un rire si argentin. Aurore est morte, qui avait les yeux couleur de mauve. Tant de beauté, tant de jeunesse, tant d'ardeur, tant de promesses, tout un courage des temps romains. Et Yvette aussi est morte, qui n'était ni jolie ni rien, et courageuse comme aucune autre. Et toi, Viva, et moi, Charlotte, dans pas longtemps, nous serons mortes, nous qui n'avons plus rien de bien.
Viva est morte, en effet. Charlotte a survécu, mais Viva est morte. Des textes extraordinaires. Une question, à Auschwitz, les Juifs, en parlent-elles ? A-t-elle réalisé ce qui se passait à Auschwitz pour les Juifs ? Il me semble que oui, elle en parle dans ses textes, mais j'aimerais vous entendre là-dessus.
Elle avait plus que réalisé.
Plus que réalisé, bien
entendu. C'est tout le poème du début, d'aucun nous ne reviendra. C'est d'ailleurs, de ce point de vue-là, une personnalité exceptionnelle. C'est une non-juive qui a su comprendre le sort spécifique des Juifs. Et le dire, mettre les mots dessus, ce texte est proprement saisissant. Et c'est d'ailleurs très, très intéressant, parce que ça la met dans une position tout à fait à part, et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles Annette Wiewiórka a fait en sorte que ça soit une des cinq personnes mises en avant au pavillon français d'Auschwitz. Et à fort juste titre d'ailleurs, la seule non-juive.
Oui, c'est ça. Oui. Violaine ?
Oui, elle raconte tout au long de sa trilogie Auschwitz et après, il y a des scénettes où elle raconte que dans le pire moment, toutes ses camarades et elle avaient l'espoir qu'elle pouvait revenir. Et elle dit, quand on était juif, on n'avait pas cet espoir-là, on avait l'espoir de durer un jour de plus, mais pas de revenir. Et effectivement, l'horizon était la chambre à gaz. Et donc, c'est vrai que Rue de l'arrivée, rue du départ, qui est le poème qui ouvre le premier tome de la trilogie, et qui raconte ce qu'elle voit, elle, des trains qui arrivaient sur la rampe d'Auschwitz, ce poème-là est magnifique. Il ouvre son œuvre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand elle fait lire ce livre à Jouvet, Jouvet lui dit « Le poème du départ, il est un peu long, il n'est pas bon, tu pourrais le supprimer. » Et elle ne le supprime pas. Et vraiment, je trouve ça important. C'est la pierre fondatrice de toute l'œuvre de Charlotte, ce poème.
Oui, oui. Nous allons entendre Jean-Pierre Leroux sur « Il y a ceux qui viennent de Varsovie ».
Il y a ceux qui viennent de Varsovie, avec de grands châles et des baluchons noués. Il y a ceux qui viennent de Zagreb, les femmes avec des mouchoirs sur la tête. Il y a ceux qui viennent du Danube, avec des tricots faits à la veillée dans des laines multicolores. Il y a ceux qui viennent de Grèce, ils ont emporté des olives et du rachat loukoum. Il y a ceux qui viennent de Monte-Carlo, ils étaient au casino, ils sont en frac, avec un plastron que le voyage a tout cassé. Il y a des mariés qui sortaient de la synagogue avec la mariée en blanc et en voile, toute fripée d'avoir couché à même le plancher du wagon. Il y a les fillettes d'un pensionnat, avec leurs jupes plissées toutes pareilles. Il y a les vieilles gens qui recevaient des nouvelles des enfants en Amérique. Il y a les intellectuels. Il y a tous les ouvriers fourreurs des grandes villes et tous les tailleurs pour hommes et pour dames. Il y a une mère qui calote son enfant de 5 ans, peut-être parce qu'il ne veut pas lui donner la main et qu'elle veut qu'il reste tranquille à côté d'elle. Il y a une petite fille qui tient sa poupée sur son cœur. On asphyxie aussi les poupées.
Ça passe de commentaires, je crois. Hein. Alors, Charlotte en est sortie. Elle a été libérée le 23 avril 1945. Elle disait d'ailleurs que le 23 était son jour. C'était le jour où elle avait rencontré son mari, Georges. Et c'était à une camarade qui lui dit « Mais on va pas tenir jusque-là ». Elle dit « Si, 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 nous serons libérés un 23. On arrive vers le 23, nous serons libérés. » Et bon, c'était une croyance qui, en l'occurrence, s'est réalisée. Ceci dit, le retour n'est pas simple. Hein. Le retour est ce qu'il y a de plus difficile. Et ça aussi, elle le raconte dans son œuvre, y compris dans le train, est-ce un train ou un avion,
un
je
ne
sais plus, un avion, qui la ramène vers Paris avec ses amis et elle ne sait plus très bien ce qu'elle vit, dit Jean-Pierre Leroux.
Au voyage de retour, j'étais avec mes camarades, les survivantes d'entre mes camarades. Elles étaient assises près de moi dans l'avion, et à mesure que le temps s'accélérait, elles devenaient diaphanes, de plus en plus diaphanes, perdaient couleur et forme. Tous les liens, toutes les lianes qui nous reliaient les unes aux autres se détendaient déjà. Seule leur voix demeurait, et encore s'éloignait-elle tandis que Paris se rapprochait. Je les regardais se transformer sous les yeux, devenir transparentes. Je les entendais encore, je commençais à ne plus comprendre ce qu'elles disaient. À l'arrivée, je ne les reconnaissais plus. Dans la foule des gens qui nous attendaient, elles glissaient, disparaissaient, reprenaient apparence un instant, si impalpables, si irréelles, si fuyantes, que je doutais de mon existence propre. Avec la disparition des autres, je disparaissais. Elles ont joué ce rôle de feu follet pendant tout le temps où nous piétinions d'un bureau à l'autre, se retrouvaient, me retrouvaient, disaient des mots que je ne saisissais pas, s'évanouissaient encore et se fondaient enfin dans la foule des gens qui nous attendaient, engloutis pour toujours dans cette foule. Elles avaient si bien perdu de leur réalité pendant le voyage, au long duquel je les avais vues se métamorphoser de minute en minute, s'effacer lentement, imperceptiblement, inexorablement, devenir spectres, que je ne me suis pas aperçu tout de suite de leur disparition. Sans doute parce que j'étais aussi transparente, aussi irréelle, aussi fluide qu'elles. Je flottais au milieu de cette foule qui glissait autour de moi et soudain, je me suis senti seul, seul, au creux d'un vide où l'oxygène manquait, où je cherchais ma respiration, où je suffoquais. Où était-elle ?
Après une expérience, si l'on peut dire, de cet ordre, il est en effet très difficile de reprendre la vie. Hein. La vie que nous avons reprise au retour est mesquine, triviale, voleuse, dit-elle. Je me sens coupable, comme tous ceux qui rentrent, bien sûr. Refaire sa vie, lui dit-on, refaire sa vie. Quelle expression ! Je suis revenu, j'ai repris mon métier, mais refaire sa vie, quel sens ça a ? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Violaine et Paul ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Charlotte, en rentrant ? Comment ça s'est passé pour elle ?
Alors, dans un premier temps, elle retrouve Louis Jouvet, qui toute sa vie, jusqu'à sa mort, va garder une affection incroyable pour cette jeune assistante. Et je crois un peu d'admiration aussi, après son retour. Donc, il est le premier qu'elle prévient de sa libération. Il l'aide quand elle est en Suède avec la Croix-Rouge. Et donc, il la reprend au théâtre de l'Athénée. Mais c'est un rythme insoutenable pour cette femme qui rentre quand même brisée physiquement des camps. Et elle a beau essayer de tenir, elle craque. Elle fait ce qu'on dirait aujourd'hui une dépression nerveuse. Enfin, on appellerait ça un syndrome post-traumatique. On trouverait des mots, mais quelque chose de très naturel qui fait qu'elle lâche. Elle lâche et pendant des mois, elle ne voit personne. Elle reste dans ses images. Elle refuse même de lire. Elle dit même que même les livres lui étaient inaccessibles. Oui. Et puis un jour, les livres reviennent. Et puis le théâtre revient et elle repart travailler à l'Athénée. Mais le rythme est trop lourd. Donc, elle part en maison de convalescence en Suisse. Et là, elle écrit.
Oui, c'est
et là,
très important.
Là, elle s'enferme et elle écrit.
C'est très, très important, la Suisse. Oui.
Et donc, elle écrit ce qui sera « Aucun de nous ne reviendra », donc qui paraîtra en 1965. Là, on est en 1946. Et elle l'écrit d'une traite et elle le publiera tel quel 20 ans plus tard. Mais elle le publiera après lui avoir laissé le temps de vieillir. Elle disait « Je veux faire une œuvre, je veux rester, je n'écris pas ce témoignage pour raconter mon expérience, je veux faire de la littérature. Parce que si la littérature ne parle pas d'Auschwitz, elle ne sert à rien. Donc elle l'enferme dans un tiroir, elle l'oublie, et elle revient à Paris, elle reprend son travail à l'Athénée, et puis elle fait vraiment le deuil de cette vie d'avant, et elle rejoint l'ONU à Genève, où elle va devenir, comment on appelait ça ?
Correspondante
Secrétaire,
en fait, c'était les femmes qui prenaient en sténo les séances.
Oui. Et puis, elle a été dans différentes commissions en Grèce, en Palestine, enfin. Oui. Elle a travaillé pour le bureau européen de l'ONU.
Oui, jusqu'à 60. ça a duré
jusqu'à
assez
60.
Longtemps.
Jusqu'à 60.
Oui.
Jusqu'à 1960.
Ah oui, jusqu'en 1960, oui. Elle a travaillé à l'ONU. Oui. Alors, à ce moment-là, elle habitait
à
Paris,
à Genève.
Elle habitait à Genève. Vous avez retrouvé des archives de son travail à Genève ?
Alors, les archives de l'ONU sont très moyennement accessibles.
Incroyable, mais vrai.
Non, un État est déjà très jaloux. Une organisation internationale est une catastrophe souvent pour les historiens, puisqu'il y a plusieurs États qui entrent en jeu et qui a un sens de la protection de l'information qui est digne de la relative fierté que l'organisation a de son passé. Donc c'est assez logique. Mais bon, rien de particulièrement étonnant. On a eu 2-3 informations. On a retrouvé des gens qui l'avaient connu à Genève.
Oui. Hein,
plusieurs. Ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'elle, là encore, elle va entrer en résistance.
C'est-à-dire
Charlotte Delbault est quand même quelqu'un qui, en 1941, choisit de revenir en France pour résister à ce qui s'y passe. En 1960, elle quitte Genève, où elle était tranquillement installée, pour devenir, à Strasbourg au départ, l'assistante d'Henri Lefebvre, mais aussi
pour manifester son opposition à la guerre d'Algérie et publié en 61 sans aucune protection par un quelconque statut intellectuel. Elle ne fait pas partie des 121 et c'est une toute petite, petite main. Mais elle publie un livre que je trouve fascinant qui s'appelle « Les belles lettres ». Qui est un recueil de lettres écrites par différents opposants résistants à la guerre d'Algérie. Et en 61, quand on lit bien ce livre, on voit qu'il y a une comparaison entre le comportement des Français pendant la guerre d'Algérie et le comportement des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Très directement.
Oui. Ce qui n'a peut-être pas toujours été bien accueilli en France.
Encore aujourd'hui, oui. C'est très mal vu par certains milieux.
Oui. Ouais. Autrement dit, elle ne change pas, Charlotte. Elle vieillit, mais elle ne change pas. Alors, vous racontez, du point de vue de sa vie privée, elle fait une très belle rencontre. Mais une rencontre, elle aime un homme magnifique, mais qui est plus jeune qu'elle, qui veut fonder une famille, avoir un enfant. Et là, ça se brise. C'est l'impossibilité pour elle, peut-être physique, et puis peut-être dans son esprit aussi, de ne pas pouvoir avoir d'enfant avec quelqu'un d'autre peut-être que Georges. Donc elle se retrouve seule, mais elle écrit et elle publie. Alors j'aimerais que vous nous disiez, car malheureusement l'émission va vers sa fin, elle n'a pas été publiée tout de suite cependant. Pourquoi est-ce que ça a été... Elle a écrit tout de suite et elle n'est publiée qu'à partir de 64 ou 65. Alors, l'un ou l'autre, Violaine ou Paul ?
Alors, l'une des anecdotes qui nous a été rapportée, c'est qu'elle disait « Je ne veux pas écrire Tartempion à Auschwitz ». Elle voulait vraiment faire œuvre littéraire et elle disait « Je n'écris pas pour mes contemporains, j'écris pour les générations à venir ». Donc, quand elle publie « Les belles lettres », qui a son petit succès et où elle fait, grâce auquel elle fait la connaissance de Jérôme Lindon, puisque c'est aux éditions de Minuit,
oui, il faut souligner au passage le rôle de Jérôme Lindon.
Absolument, c'est l'un des rares à publier à cette époque-là femmes comme, et des hommes, mais notamment Germaine Tillon. Il publie donc Charlotte Delbault et Henri Allègre. Enfin, c'est vraiment un éditeur combattant dans cette guerre d'Algérie. Et donc Charlotte Delbault va finir par lui confier sa trilogie. Que lui va publier et qui va connaître
à Auschwitz et après.
Nous avons trois volumes, le premier sur Auschwitz, le second sur Ravensbrück et le troisième qui pour moi est très très beau aussi, qui s'appelle Mesures de nos jours et qui raconte comment elle disait ces revenantes, comment les revenantes ont fait leur vie après et elle va les interviewer toutes les unes après les autres en 1965, donc 20 ans et qu'est-ce qui s'est passé et c'est un livre très émouvant. Parce qu'en fait, elle dit « les revenantes ne sont pas revenues ». Il y en a une qui dit « moi je suis morte à Auschwitz, mais personne ne le sait ». C'est un très très beau livre, le troisième tome de la trilogie. Et puis elle publie aussi, ça sera son dernier livre chez Lindon, « Le convoi du 24 janvier 1943 ». Pour lequel elle a fait un travail de fourmi, mais extraordinaire. Elle a retrouvé toutes les biographies des 230 femmes du convoi. D'où elles venaient, qui elles étaient, pourquoi elles avaient résisté, comment elles avaient été arrêtées, et puis comment elles sont mortes, ou comment et où ce qui s'est passé à leur retour.
Oui, ce qui est un véritable document d'histoire.
Ah, c'est un document formidable.
Il faut rappeler le rôle aussi d'André E. Michel, oui. Grande sociologue et féministe, qui a commencé à la publier chez De Noël Gontier.
Absolument.
Et ensuite...
Avant minuit.
Oui. Et c'est vraiment magnifique. Alors donc, une très grande œuvre. Une très grande œuvre que j'espère le public va véritablement découvrir maintenant. Et pour finir, je voudrais que vous nous disiez l'un et l'autre, c'est l'année du centenaire de sa naissance, et elle est dans les centenaires nationaux, oui. En quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à ce sujet ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ?
Alors, il se passe plein de choses dans la France entière, du plus petit, de la plus petite association de théâtre amateur qui monte une pièce de Charlotte, à des choses extrêmement prestigieuses, comme par exemple le 17 juillet au Festival d'Avignon et en partenariat avec France Culture, Emmanuel Riva va lire Spectre, mes compagnons. Il y a quelques... Voilà, la Comédie française a monté au printemps dernier une lecture des textes de Charlotte. Il y a des choses très prestigieuses. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est tous ces libraires qui organisent des lectures, tous ces petites associations. Enfin, il y a une voix, Charlotte, qui essaie d'émerger. Alors, on espère que c'est pour longtemps et que ce sera définitif cette fois.
Oui, on peut retrouver l'essentiel des manifestations sur le site de l'association Charlotte Delbault. Donc ça, comme ça, ça permet de retrouver, suffit de faire sur un moteur de recherche quelconque association Charlotte Delbault et on trouve tout de suite sur le site de l'émission. Et puis le 3 octobre, on peut signaler qu'au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y aura Irène Jacob qui fera de belles lectures de ses textes et on parlera avec Violaine Gély un peu de sa vie. Je pense que ça pourrait être un moment fort. Et je voulais juste rappeler une chose. Donc Charlotte Delbault, c'est à la fois quelqu'un qui a écrit la déportation et qui a écrit l'après-déportation.
Oui,
c'est très très rare.
Très, très important.
Et une voix féminine reconnue bien ailleurs dans le monde. On a parlé de la Chine, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, la trilogie a été traduite. Aucun de nous ne reviendra, a été traduit même en polonais. Il y a quand même là un mouvement, nous l'espérons, qui va permettre de donner, non pas de redonner, mais de donner à Charlotte Delbault une place qu'elle nous semble mériter.
Eh bien, l'émission d'aujourd'hui s'inscrit dans ce désir de redécouverte de Charlotte Delbault. Et je voudrais vous remercier beaucoup, tous les trois, d'être venus maintenant. C'était les Lundis de l'Histoire, présentés aujourd'hui par Michel Perrault, avec Violaine Gély et Paul Gradvol pour leur livre Charlotte Delbault, paru aux éditions Fayard. Jean-Pierre Leroux nous a lu beaucoup de textes de Charlotte Delbault. La prise de son était assurée par Jean-Louis Deloncle, la réalisation par Ghislaine David. Et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richeux. Au revoir.
Lointain, guettant ma porte, j'écoute en vain.